beaucoup des avances assez financières assez larges à leurs clients, aux clients qui étaient dans leur réseau commercial et financier. Et il y avait certainement un gros problème de dette à cette époque. Et donc voilà, c'était pour donner un peu une idée du contexte. Et je travaille surtout sur les années 1980, les deux dernières décennies du 18e siècle, puisque je suis partie de cette firme en particulier. Et donc mon cas d'étude porte sur les problèmes en théorie économique, problème de confiance, d'aléa morale, d'opportunisme et le problème d'exécution des contrats dans ce contexte. Et en fait, je travaille sur le rôle des institutions, en particulier les institutions formelles et informelles, et j'essaie de voir quel était le rôle respectif de ces institutions. Donc, une étude préalable, dans une étude, j'ai travaillé sur le réseau commercial et financier de Tobin Aziné. Donc, en fait, je présente à la team naturellement des travaux sur les réseaux. Je dis non, je suis pas sûre. Et donc, j'avais travaillé plus sur les liens informels qui permettaient à ces acteurs économiques de réguler les échanges. Et j'ai travaillé pas mal, j'ai essayé de reconstruire ces réseaux, travaillé sur les liens de parenté, d'amitié, qui permettaient justement de établir des liens de confiance entre les acteurs économiques. Et donc, pour donner un peu une idée de la théorie économique qui est sur mon travail, j'ai fait un travail sur ce que Greif sur ce qu'elle a écrit sur les marchands maghrébins qui, aux effets de la Méditerranée, justement, utilisent beaucoup ces réseaux informels pour réguler l'échange et pour faire en sorte de faire respecter leurs engagements et de faire respecter exécuter les contrats entre différents agents économiques. Et grâce à son travail, justement insiste sur ce côté informel des transactions économiques et montre que ces marchands justement fonctionnent en dehors du système légal. Ce qui m'intéresse dans mon cas d'étude, c'est justement qu'il y a un système légal. En même temps, il y a toujours un problème dû à la distance de confiance. Et ce qui m'intéresse en plus de voir, c'est comment ces acteurs utilisent le système légal alors qu'ils ont aussi recours à un système informel de réseau. Et de voir quelle est l'utilité de l'IGM en cas. Je vais vous demander
de m'entendre
au Gémois
de
Drache ou que ce soit la Gémois. Disons que ce que j'essaie de faire, c'est de prendre le défi des différentes institutions et de voir comment ils utilisent le système légal dans ce contexte. Et la différence. Il ne pas tout à fait comme les Gémois de Greif parce qu'ils n'évoluent pas dans un système interculturel en fait. Ils ont toujours un système d'attentif britannique, système mercantiliste, et donc le système légal qu'ils évoluent dans une seule juridiction en fait. Tandis que les Gémois, ils échangent avec. Donc il y a un autre problème aussi d'exécution des contrats qui est aussi dû à ces différences culturelles, sociales et politiques qui ne se retrouvent pas là. Le problème ici, c'est surtout le problème de la distance et du temps. Alors, je m'arrête. Mm-hmm. Excusez-moi. Mm-hmm. Alors. Merci un peu. Un échange, une transaction commerciale sur les divergences publiques. Donc j'en étais à la deuxième diapositive. Donc voilà, c'est pour donner une idée de l'historiographie sur laquelle je travaille et de mes perspectives d'études de recherche. Donc un petit peu d'informations sur les structures légales politiques des îles souvent. Donc Nélis, Pouski, Saint-Christophe. C'est une continuité d'un seul gouvernement des Leeward Islands Mais chaque île a son propre gouverneur, son propre conseil et sa propre assemblée. Et chaque île peut établir ses propres lois, en fait. Chaque île aussi a des cours de justice distinctes. Donc quand j'expliquerai, dans chaque île, à Saint-Christophe, il y a un tribunal de justice civile. Et c'est la même chose pour Nevis, malgré le fait que ce soit des îles de petite taille. Et donc chaque île a des pouvoirs législatifs, c'est un système droit commun, mais les colonies have the power of making laws for their government and support, provided that they are not repugnant to the local practices. Donc elles peuvent faire leur propre loi, la seule limitation c'est qu'il ne faut pas que ce soit repugnant, répugnant, contradictoire, voilà. Mais ça reste assez vague en fait. Donc au niveau de l'efficacité et du fonctionnement de l'institution légale, de ce système légal, de ces cours de justice, on a des points de vue assez contrastés. Si on regarde aux États qui travaillent sur le système judiciaire, en général c'est une vue assez négative de système légal colonial, et ces institutions sont vues comme étant plutôt faibles, inefficaces ou corrompues, pour un différent nombre de raisons. Et souvent, ça se retrouve aussi, souvent les sociologues ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs qui ont été retrouvés dans certains comptes rendus de marchands ou d'administrateurs locaux. En particulier, donc, une des plus importantes récriminations, c'est le fait que les planteurs, qui sont souvent aussi les juges qui forment le personnel de ces cours de justice, sont à la fois jugés partis, puisque ce sont eux souvent qui sont justement l'objet de poursuites légales. Et donc il y a un problème là d'intérêt particulier. Il y a aussi un autre problème qui est le faible contrôle de la métropole sur les élites locales, qui est un petit peu aussi en conjonction avec ce que je viens de dire, lié à la distance, au temps. Et aussi, un autre problème, c'est le manque de formation professionnelle des juges qui ne reçoivent pas d'éducation formelle en droit. Et donc, leur incompétence est parfois prohibitoire. Et par contre, si on regarde aux travaux des historiens économiques, on a on rencontre un point de vue plutôt différent. Et qui a tendance à mettre en valeur la bonne performance du commerce en voiture anglais à cette époque, le commerce du sucre. Et des gens comme Price sont à mettre en. Font référence aux dispositions légales en place dans le système anglais, par opposition à d'autres systèmes, et en particulier au système français. Et en particulier, il est souvent montré que le Act for the More Easy Recovery of Debt in America, qui prend effet en 1732, avait un rôle positif sur le commerce sucrier et sur le développement des instruments financiers dans l'Atlantique britannique. Et cet acte ne s'applique qu'aux colonies et pas du tout en Angleterre. Et donc Price, justement, parle d'après les défense modèles, un système où le créditeur a finalement, où le système est visé en faveur du créditeur. C'est parce que cet acte, en fait, grâce à cet acte, les créditeurs peuvent s'acquérir les terres, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les esclaves de leurs débiteurs. Alors que c'est différent entre la fortune commerciale et la fortune immobilière, enfin les biens mobiliers et les biens mobiliers, est différent dans les systèmes anglais métropolitains. Et ce système est différent du système français qui tend à penser la plantation comme un système indivisible et où c'est plus difficile de faire saisir les esclaves séparément des terres. Puis moi, j'ai pas la présentation en français, c'est assez difficile. Je vais essayer de me concentrer sur, trois questions qui m'intéressent particulièrement ici. Donc, surtout, bien sûr, le terme général, c'est le rôle du système légal dans la résolution des disputes commerciales, en particulier dans le recouvrement des dettes. Donc, dans quelle mesure les problèmes rencontrés à Nevis et Saint-Kitts diffère de premièrement notre Cour de justice anglaise. On a vu qu'il y avait toute une liste de problèmes identifiés dans les philographies. Est-ce que ces problèmes se retrouvent aussi dans notre Cour de justice anglaise à l'époque? Et ces problèmes ont empêché-t-il les marchands métropolitains d'avoir recours au droit et finalement, est-ce qu'ils décidaient de ne pas utiliser les cours de justice et plutôt de s'en remettre des mécanismes plus informels de résolution des conflits? La seconde question concerne l'impact du Debt Recovery Act dans la pratique. Est-ce que vraiment ça a fait une telle différence et ça a permis à la santé britannique d'être aussi performant par rapport à l'autre système? Et quel était l'emploi du système légal dans la pratique? Dans quel but les marchands avaient recours au droit? S'ils avaient recours au droit, donc les questions 1 et 3 finalement se font écho. Donc une source que j'appuie sur les archives de Clinton chez Common Pleas Court pour la période 1678-1803. Ce sont des cours de justice civile et je me concentre particulièrement sur ces cours parce que ce sont dans ces cours de justice que les dettes que se faisait le recouvrement des dettes. Et j'ai aussi travaillé sur des deed records, donc tous les actes et titres de propriété, etc., qui sont aussi analysés. J'ai choisi cette période parce que, en parallèle, j'ai aussi travaillé sur le réseau commercial de Jobin & Pinet. Et en fait, c'est aussi ce qui m'a poussé à travailler chez Nevis, puisque la grande majorité des clients de Jobin & Pinet se trouvaient à Nevis et Saint-Cret. Et c'est là où ils avaient commencé en tant que planteurs. Et l'utilisation de leur réseau commercial permet d'éclairer certains choix qu'ils font par rapport à l'utilisation du système légal. Voilà. Et une dernière chose que j'utilise, c'est Parliamentary Inquiry into Administration of Civil and Criminal Justice. Au milieu de l'année 1820, enfin début de l'année 1820, une commission est établie pour enquêter sur les limitations et les problèmes des cours de justice anti-gaz. Cette commission, cette enquête porte sur les décennies précédentes, donc ça aussi, ça va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, la partie du droit. Donc là, c'est une liste des problèmes identifiés en général avec les cours de justice. Il y a eu un problème de limite juridictionnelle, formation des juges, les délais courts associés aux cours de justice. Elle serait particulière parce que ceci fait référence au fait que les juges étaient à la fois jugés partis, que les planteurs étaient à la fois jugés partis dans ce système, et le problème d'exécution des contrats, le problème d'exécution des jugements rendus. Ici, puisque bon, c'est un point d'intimité, je me concentre en particulier sur ces deux derniers aspects, et peut-être une présentation, je ne sais pas, mais donc, les deux particuliers. La domination des planteurs sur ces cours de justice est réelle. Et donc là, j'ai on a le témoignage de Thames, qui était gouverneur général de Leeward Island en 1774. Il écrit « It is dangerous to take the power of injunction in the hands of representatives of the planter class. Since the small societies like those of the Leeward Island, called the Chancery, constituted of the council, will almost invariably be composed of the people who most probably have occasion to appeal to it for redress. » Donc là, il met bien en valeur ce problème de conflit d'intérêts et de collision entre différentes fictions, entre justement les acteurs socio-économiques ici. Mais quand on regarde, quand j'ai regardé les archives, par exemple, là, c'est une photo de l'entrée pour la session de juin 1785, et un des assistants de juge, c'est George Webb Agnew, qui a aussi un planteur assez important. Même s'il a fait son justice, deux ans plus tard, il est l'objet de deux poursuites légales par des marchands métropolitains de Bristol. Il y en a un qui s'appelle Bradley & Bryce et l'autre Procure & Claxton. Et dans les deux cas, le jugement est rendu en faveur des deux firmes métropolitaines. Donc, ce qui montre qu'en fait, même s'il y avait ce problème, les marchands de métropole n'hésitaient pas à poursuivre en justice les juges, à suivre son juge et à le succès. Donc, à mon avis, ce n'est pas le problème le plus important dans ce cas-là. plus, la deuxième question, c'est est-ce que ce problème était spécifique à la Saint-Étienne-Église ou c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les communautés de petite taille finalement. Et c'est le problème de la dimension sociale et comment dire, en anglais, social indebtedness. Ouais. Ils sont combien? Il y a à peu près 30 planteurs sur les listes, entre 30 et 50.
Et combien de temps, la commune européenne?
L'européen? La population devait être à peu près 10 000 habitants, donc c'est à voir.